Cachillonne, le rendez-vous manga de Radio Campus Po.
Si toi aussi tu voudrais que ta collection de Takehiko Inoue soit composée uniquement d'œuvres terminées, bienvenue, tu es au bon endroit. Nous, on se retrouve sur Cachillonne, l'émission de... consacrée au manga de Radio Campus Po. Moi, je suis Tristan, et je ne suis pas tout seul, comme d'habitude.
Non, il est avec le pote Gaëtan.
Et aujourd'hui, comme promis, on va discuter de la très bonne nouvelle.
Oh là là.
Vraiment, le retour de Mitsuru Adachi en France.
Il est là.
Voilà. Donc, comme d'habitude, petit format actualité, cœur du sujet, et après, un petit avez-vous déjà lu ? Un peu en thème, mais c'est compliqué de faire vraiment exactement ça sans juste parler de boxe, donc on va.
Ou on va romancer. Voilà.
Donc là, c'est un peu. Une petite recommandation sympa, pas forcément exactement dans la même veine, mais on s'y retrouve.
Normalement, si vous aimez Katsu, l'avez-vous déjà lu ?
Voilà,
vous allez l'adorer, les potes.
Et ben voilà, on est parti, hein.
Alors, actu brûlante. Bah alors, le mois dernier, on avait évacué l'actu parce que Angoulême était,
ouais,
l'actu.
Voilà,
on était.
Ça.
Mais là, on repart là-dessus et la grosse actu, peut-être la récente, l'une des deux grosses, parce que tu arrives aussi avec du lourd. C'est le dernier tome de Jojo Lyon qui arrive à la fin du mois de mars. Donc Jojo Lyon qui est le huitième chapitre. Le huitième arc de Jojo Bizarre Aventure de Araki, voilà, qui arrive à son terme avec ce 26e tome chez Delcourt Tonkam, et en parallèle, normalement, on devrait l'avoir,
oui,
en France.
Ça devrait arriver assez vite.
On devrait l'avoir normalement cette année ou l'an prochain. La suite est déjà en lancement, donc c'est Jojo Lands qu'elle s'appelle, donc qui est publié là. Donc c'est le 9e arc qui a commencé début février. Donc oui, je pense que les tomes vont suivre, vont pas trop tarder à suivre en France.
Ça va suivre assez vite, hein. Il y a aucune raison. Ça va s'enchaîner naturellement.
Bon, je pense, hein. Ouais. De toute façon, Jojo, ça marche.
C'est ça.
Raison. Donc on va la voir vite. Et on n'a pas plus de news, il y avait des rumeurs comme quoi ce serait probablement le dernier.
Ouais, ça n'a pas été confirmé encore, en tout cas au moment où on enregistre.
On n'a pas vu de choses.
On n'a pas eu.
En tous les cas,
de toute façon, s'il doit y avoir une actu, on en parlera assez vite dans l'année.
Ouais, là c'est clair.
On va faire une petite chronique.
Ouais. Oh, Jojo, c'est un peu un manque.
Voilà, petit teaser pour cette fin d'année scolaire. Voilà,
accrochez-vous, c'est tout pour...
Allez, et on enchaîne donc avec la sortie du tome 37 de Hunter x Hunter, qui reprend son cours lent, mais existant.
Oui.
Voilà, donc toujours chez Kana, Togashi qui s'accroche et qui, on le dit une fois tous les deux mois, je pense, on espère qu'il trouve un rythme confortable et sûr pour sa santé.
Ouais.
Et voilà, donc là, tome 37, toujours vivant, toujours debout. Ouais.
Bah là, du coup, c'est effectivement la compilation de tous les chapitres qu'il a fait depuis sa reprise, avant le nouveau hiatus, là, qui est, a priori, qui commence un peu à se préciser. A priori, il sort, Hunter x Hunter sort de la programmation du magazine dans lequel il est, enfin, je sais plus si c'est le Jump pur ou si c'est un des dérivés. A priori, il sort de cette publication-là, donc on va voir où il termine. Mais du coup, ça a l'air d'être sur la bonne voie. Les solutions ont l'air d'être là.
Ça a l'air d'être vraiment enclenché et actif.
Ouais. Donc ça régale. Donc là, en attendant, vous pourrez retrouver vite le prochain tome, sachant que Kana a annoncé que, comme ça se fait un peu en ce moment, le premier tirage aura sa jaquette un peu brillante.
Oh.
Voilà, donc... si jamais vous voulez être des trous...
le bling bling.
Des trous mec Hunter x Hunter, des trous personne, voilà, ruez-vous. Donc moi je vais enchaîner alors avec de la niche cette fois-ci.
Ouais, bah là ça va être... On sort du mainstream, hein, sur les deux derniers.
Exactement, et là on va deep dans le pas mainstream du tout. C'est la sortie de Désir sous la pluie de Yoshiharu Tsuge chez Cornelius. Le 16 mars, donc la semaine prochaine, enfin la semaine d'après la sortie de cette émission. Donc Tsuge, qu'est-ce que c'est ? Désir sous la pluie, qu'est-ce que c'est ? Alors Tsuge, c'est un auteur pas super connu, pas forcément très très connu chez nous, mais qui est une espèce d'icône absolue du manga au Japon.
C'est le méga rockstar.
Exactement.
Lisez Tsuge.
Oui. Oui. Alors, c'est particulier Tsuge, attention, ouais. Lisez-le.
Après, il y a des choses très accessibles. Bon, je... Allez.
Rien n'est accessible bon. Chez Tsuge. Mais bon, après, je veux dire, la publicité mensongère, ça. Non, Tsuge, alors c'est une espèce de star. Déjà, c'était la star du magazine Garo, donc le magazine un peu avant-gardiste des années 60-70 du Japon. Et en plus de ça, c'est aussi l'inventeur de ce qu'ils appellent le manga du mois, qui fait référence à un style de littérature qui s'appelle le roman du mois, qui est propre au Japon, donc qui est une manière en fait de raconter sa vie, enfin son autobiographie, mais à travers quelque chose qui est pas forcément, qui colle pas spécialement au fait, en fait, où l'émotion prime sur le fait. C'est très particulier. Et Tsuge, en plus, lui a du coup compile ça en images, donc c'est un peu l'inventeur de ça. Il a eu plein d'enfants, plein de gens qui se réclament de son travail, donc c'est beaucoup d'histoires qui ont une structure assez particulière. Qui racontent pas grand chose au final, qui s'attardent vraiment sur le quotidien et qui aussi souvent peuvent ne pas avoir de fin, enfin des coups très abrupts, quelque chose d'assez surréaliste. Voilà, c'est particulier, Tsuge, mais après, effectivement, il y a des travaux quand même un peu plus accessibles que d'autres, mais globalement, quand même, ça reste, pas pour lecteurs un peu confirmés, je pense. Et là, en fait, Cornelius édite à peu près toutes ses œuvres, je crois, de mémoire, mais là, Désir sous la pluie, c'est la fin de la série d'anthologies de ses histoires courtes qu'il publie. Donc là, c'est le dernier tome, donc il se concentre sur ses travaux de 81 à 85, et donc c'est les dernières histoires courtes qu'il a fait avant de faire L'Homme sans talent, qui est peut-être sa grosse histoire connue, qui est la fin de sa carrière. Après, il a disparu dans la nature, il a arrêté, il s'est mis en ermitage. Enfin, c'est quelqu'un d'assez particulier, il a une vie assez assez particulière, Tsuge. Et voilà, donc c'est la fin de ces belles anthologies. Donc c'est Cornelius, donc c'est très beau. C'est un budget, c'est une vingtaine d'euros, mais après vous en avez pour votre thune. C'est des bons pâtés.
C'est des couvertures rigides.
Ouais, c'est une belle brique, papier bien blanc. Ouais. Le petit feuillet, enfin c'est des éditions de luxe, vraiment Cornelius. Donc voilà, donc si jamais vous voulez découvrir cet auteur-là, là ça peut être la bonne occasion. Parce que, enfin, dans tous les cas, voilà, peut-être niveau accessibilité, alors je connais pas tous ses travaux, mais si vous voulez vous attaquer à lui, attaquer plutôt ses travaux anciens, donc ça serait concentré sur la vis et le marais, je crois, de mémoire, donc c'est le nom des anthologies, qui sont au moment où il expérimentait pas encore à fond. Là, ça doit être des choses assez, assez poussées niveau expérimental, mais si jamais on n'avait pas froid aux yeux. Let's go, dans tous les cas, c'est de la bonne cam.
Et on termine l'actu avec l'arrivée de Shut L avec une édition collector pour le tome 1 qui est très très sympathique.
Qui est exclusive à la France.
Oui, et ça fait. On aime, ouais, hein, ça on aime toujours. Donc chez Panini, la série de Yu Ito, série courte. Je vais dire pas tout public, mais parce qu'il y a quand même de la violence graphique. Et elle se balade assez souvent, mais bon, c'est un détail, on va dire.
Au moins, les couves sont explicites là-dessus.
Oui, voilà, on se trompe pas. Mais voilà, c'est jamais... c'est pas du fanservice où tu vas avoir des contre-plongées absolument dégueu. Ouais. C'est juste
c'est juste aller comme ça, quoi.
Oui, puis même, c'est une période de guerre et il y a beaucoup de retournements et de combats. Et elle a juste... Comme c'est le cas sur des périodes très dures, tu peux pas non plus te balader avec ton baluchon, tes affaires, quand t'es trempé de sang, tu fais ce que tu peux. Et donc Shut L, on se balade sur deux lignes temporelles, alors très très concentrées, donc sur la période des invasions mongoles qui accueille donc ce personnage. Et en même temps, on va avoir des petits points sur les descendants des protagonistes de cette période-là qui se rencontrent dans notre monde actuel de la vérité-réalité. Ça veut rien dire.
De la vraie réalité.
De la vraie réalité, oh là là. Et voilà, donc on se concentre vraiment sur l'aspect historique avec beaucoup de peuplades qui sont vraiment bien décrites. C'est très centré sur l'écriture et le sauver des savoirs, des alphabets.
entrecoupé de massacres. C'est rigolo.
C'est...
Alors, j'ai pas tout lu.
Mais voilà, il y a vraiment de l'action très très efficace, des personnages bien construits, des relations qui... Bah, du coup, quand les personnages changent, parce que quand la personne de notre présent arrive dans cette période-là, c'est forcément pas les mêmes identités. Et du coup, c'est des relations qui s'adaptent et c'est intéressant. C'est un jeu assez original en fait. Mmh. On n'a pas trop ça. Et voilà, petite lecture sympa.
Ah, c'est cool, c'est court. En plus de ça, on a les deux premiers tomes qui arrivent d'un coup.
C'est ça, ça arrive. Donc ça va finir assez vite, je pense, s'il garde un rythme de parution standard.
Oui, sachant qu'elle est finie, non ?
Ouais.
En plus, Châtel,
c'est terminé.
C'est sorti il y a quelques temps en Japon. Ouais. Donc il devrait l'enchaîner tous les 2-3 mois.
Oui, c'est ça. Et action très efficace, personnage intéressant, et on a envie de les suivre en fait. Mmh. Ils deviennent assez vite attachants, et comme ils grandissent assez vite, et ils reviennent sur pas mal de leurs défauts, et grandissent ensemble, c'est hyper intéressant. Voilà, donc à suivre.
Eh bien, tour d'actu terminé, donc là vous avez de belles lectures.
Comme d'habitude. Vive-nous.
Voilà, après il y a quand même au moins la moitié, genre soit vous connaissez et vous avez déjà.
Oui.
Soit vous allez avoir.
Voilà, c'est des petites mises à jour sympas.
Mais bien sûr.
Ça fait plaisir.
C'est aussi des actus qui sont immanquables. Hein,
voilà.
Hunter.
C'est dur de passer à côté.
Exactement, on est obligé d'en parler. Là c'est les rockstars quoi.
Voilà.
Et on va enchaîner là avec le gros focus du jour, donc qui est le retour de Katsu de Mitsuru Adachi en grande pompe, avec accompagné en plus chez Nobinobi, accompagné de Bokan Shonen qui est un récit d'histoire courte.
Pour faire plaisir, le petit one shot cadeau.
Mais oui, donc voilà, donc cet auteur qui revient depuis l'an dernier, qui a eu deux rééditions, Short Programme et Mix, qui arrive, donc on espère y avoir plus, mais on va développer ça après
une
petite interlude musicale. Et vu que Adachi c'est de la romance un peu lycéenne, Katsu on est sur des protagonistes de 15 ans, on s'est dit que les interludes musicaux ce serait des choses qu'on écoutait avec un speed.
Voilà, petit concept rigolo.
Ouais, petit retour en arrière des familles.
Au lieu de mettre Eye of the Tiger parce que ça parle de boxe.
Exactement.
On part sur un truc plus intimiste.
Exactement, voilà. Du bon rock années 2000.
Voilà.
Ouais, tu sais. Et donc on enchaîne avec Skin de Breaking Benjamin. Et on se retrouve tout à l'heure.
We'll be right back.
et re, vous êtes de retour sur Cachillon, Radio Campus Po, et on est là pour parler de Mitsuru Adachi, le régal, le retour, qui nous fait extrêmement plaisir.
Oui, qui est très prometteur.
Ah ouais, bah on espère qu'on va en avoir plus,
ouais,
surtout.
Ouais. Non, en tout cas.
Oui, surtout. Mais en vrai...
je suis biaisé, laisse-moi tranquille.
Mettez-en plein, parce que oui, Mitsuru Adachi, c'est le bonheur, c'est accessible. Ouais. Et là, c'est pour ça qu'on est là.
On va quand même se concentrer sur Katsu, parce que des deux, c'est quand même le plus volumineux. Oui. Et voilà, on va pas non plus parler une demi-heure de Boken Shonen, mais il est là, et ça fait plaisir, surtout que ça change, ça sort un peu des habitudes de lecture d'Adachi, où t'es dans un lycée, et tu regardes les mêmes têtes faire les mêmes choses.
Mais oui.
Du coup, là, ça nous change un peu, c'est cool.
Mais à fond. Mais parce que Mitsuru Adachi, alors avant de parler un peu plus du bonhomme, on va déjà dire que Mitsuru Adachi, mine de rien, c'est un auteur qui a une histoire assez particulière en France, parce que il y a eu des tentatives de l'éditer, notamment sur la période années 2000 où on a eu pas mal de ses œuvres, dont Katsu.
Quasiment tout le gros.
Toutes ces grosses œuvres.
Le gros du panier.
Toutes ces grosses œuvres, ouais. Donc. Plein de titres, donc on est souvent sur des titres courts. Alors on en a eu plein qui ont été édités chez plein d'éditeurs. Par exemple, Katsu était chez Pika avant, et qui est plus commercialisé depuis 2009.
Il n'y a plus rien de trouvable de toute façon.
Non, il n'y a plus grand chose. Bah, c'est pour ça qu'il revient, et ça fait plaisir, parce que Adachi, visiblement, et là je suis colère, les gens, ne marche pas en France.
Oui.
Pourquoi ?
Il va falloir se mobiliser.
Pourquoi ?
Appelez vos familles, vos tantes, vos mamies. Et achetez tout.
Faites lire ce monsieur aux gens que vous aimez. Et lisez-le si vous vous aimez.
Oui.
Parce que Adachi, on parle pas de Joel Clodo, les gens.
Non.
Là, Adachi, on est sur un auteur qui a un peu plus de 70 ans maintenant, qui est cultissime au Japon.
Qui
devrait être cultissime également ici aussi. Genre, c'est quelqu'un qui est dans le circuit depuis le début des années 70. Qui a mis sa petite dizaine d'années à bien péter avec Touch en 81.
Touch, s'il vous plaît.
Donc Touch, qui fait partie des titres qu'on a eu en France et qui sont introuvables à l'heure actuelle, et qui est notre titre préféré.
Rendez-moi Touch, vite.
Donnez Touch.
Je le veux.
Voilà. Donc Touch qui a pété, qui lui a fait, qui l'a fait exploser. Et voilà. Et depuis, au Japon, on est sur un auteur très très respecté. Voilà, et alors qui est particulièrement connu pour sa rivalité avec une autre grande figure du manga des années 80, mais que vous connaissez par contre au moins sûrement de nom, Rumiko Takahashi,
oui.
Donc la maman de Ranma Demi.
Beaucoup plus connue pour le coup en France.
À fond, parce qu'on a eu, elle a été hyper mise en avant dans le club Dorothée et par Abe, donc maman de Yusei Yatsura, de Maison Ikoku, Ranma.
Et c'est marrant cette rivalité, parce que c'est vachement proche.
Mais
ce
oui,
qu'ils font.
Ah oui.
C'est
justement
c'est hyper drôle.
Mais qu'est-ce qu'ils font justement? C'est quoi le style? C'est quoi la recette?
Mais quelle transition!
Allez, on est dingue.
Du coup, ça va pas non plus être les mêmes ressorts, donc je vais vraiment me focaliser sur Adachi et pas les ressemblances, parce que de toute façon ça serait un autre focus. Mais en lisant un Mitsuru Adachi, on reconnaît vraiment déjà le style graphique qui est très très reconnaissable, avec des têtes très... c'est des ronds.
Oui, tous les personnages sont très ronds.
C'est que des ronds, et c'est très... c'est vraiment... c'est assez cartoon dans le dessin. Et en plus, sur les situations comiques, il va l'accentuer encore plus. C'est vraiment... donc... Très reconnaissable là-dessus, surtout qu'il ne change jamais de chara-design.
Non.
Jamais. Donc, il faut savoir quelle œuvre on lit, parce que sinon on ne sait pas comment appeler les personnages.
Oui, sachant qu'il a alors, une des choses très reconnaissables aussi chez lui, c'est le fait, en fait, qui est surtout pour ça qu'il est réputé, c'est le fait qu'on est sur un auteur qui est de shonen, donc comme Rumiko Takahashi, mais qui mélange sport. Et du coup, tout un décorum qu'on retrouve habituellement dans les Neketsu, avec de la comédie romantique et du sentiment. Et là, du coup, on arrive à se mélanger les pinceaux. C'est qu'il prend très souvent les mêmes sports aussi.
Oui.
On retrouve un peu toujours les mêmes chara-design, enfin, notamment le couple de persos principaux qui ont en général exactement la même tronche. Mais en plus de ça, on a plusieurs séries. Touch, par exemple, traite de baseball. On a plusieurs séries de baseball. On a
dont la suite.
Bah, qu'on a le spin-off qui se passe 30 ans après. Mais genre, il y a deux ou trois séries de boxe au moins.
J'aurais dit deux.
Il y a Cross Game et Katsu. Après oui, en baseball on a H2, ouais. On a Mix. Alors Mix, bon, qui triche parce que c'est 30 ans après, je crois, après Touch. Mais Touch, on en a d'autres, il me semble. Enfin, et sachant que c'est que parmi ce qu'on a eu en France, parce qu'il a encore plein de choses. On est sur un auteur prolifique. Voilà.
Et voilà. Et ce qui est fou, c'est que avec les mêmes têtes, les mêmes ressorts scénaristiques,
ouais, ça aussi.
C'est toujours des histoires, mais que tu dévores.
Ouais.
C'est fou parce que ça se repose sur des situations comiques ou vraiment très lycéennes qui sont vraiment les mêmes, mais c'est toujours tourné avec un petit changement sur le milieu ou sur les relations des personnages, et ça marche tout le temps.
Ah oui.
Et je ne comprends pas. Je comprends pas comment il fait, parce que ça devrait pas marcher.
Il est bon.
Mais oui.
Il est incroyable.
C'est dingue. Et je ne comprends pas.
Et ouais, enfin, c'est effectivement. Bah, déjà, il use en général des thèmes. Je veux dire, enfin, des artifices qu'on retrouve généralement dans des comédies romantiques. Donc, le triangle amoureux, notamment, qui est partout.
Il l'assume tellement.
Ah oui, tout à fait.
Dans chaque série après Touch, parce que c'est vraiment celle-là qui l'a lancé. À chaque fois, il va faire des allusions en disant j'ai telle série dans ma bibliothèque, ça s'est passé comme ça dans tel manga de moi.
Ouais.
Enfin,
ouais, il l'assume, plein d'autocitations.
Hein. Il l'assume totalement, et juste, c'est un flex terrible.
Bah oui.
Il le sait qu'il utilise toujours la même chose, mais ça marche.
Mm-hmm.
Et je comprends pas.
On a tous les en plus, parce que Adachi, peut-être sa qualité principale de prime abord, parce qu'après on va rentrer dans les choses. C'est qu'en fait c'est effectivement genre c'est hyper agréable à lire, c'est hyper fluide, tout est fluide, il y a pas beaucoup de texte, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent tout le temps, et en plus il y a toujours, ça reste quand même, même s'il y a quand même des enjeux et tout, ça reste quand même souvent assez léger, et comme chez Rumiko également, en fait du coup quand on lit ça il y a un côté hyper confort, c'est hyper chill à lire Adachi. Et ce qui est marrant, parce que ça lui permet, donc à la fois on a toujours un peu le même cadre, un peu toujours les mêmes ressorts, le même chara-design, les sports qui reviennent, ça met totalement dans un... En fait, moi je trouve que Adachi, il y a un peu ce côté que quand on regarde un format de sitcom,
c'est ça.
Où en fait tu reviens, tu sais là où tu mets les pieds, t'es content de revenir là parce que c'est rassurant, enfin il y a un truc... Et lui ça lui permet en plus de péter un
peu. Toutes les différences qui vont faire que toutes ces séries ne s'appellent pas pareil, ça va vraiment être dans de la subtilité, dans des setups qu'on voit quand on relit, et beaucoup de narration visuelle aussi.
Ouais, ah bah ça.
Ça, déjà pour te montrer des choses qu'il a pas envie d'expliquer, et aussi le découpage.
Ça, on va faire un vrai point
on
dessin.
On va faire
après.
Un point dessus, mais
parce
quand
que
même.
Le point dessin, mais on tease déjà. Adachi, c'est probablement un des meilleurs dessinateurs, un des meilleurs storytellers du manga, quoi.
Ouais,
c'est lunaire, et toujours pareil, un peu l'air de rien, mais on va vraiment lui accorder son point dessin à la fin.
C'est juste pour clôturer vraiment l'aspect graphique.
Oui, c'est ça. C'est que Adachi, c'est un monstre de la narration, malgré un style qui a l'air hyper simple et enfantin et tout. Non, aussi un truc qui rajoute au côté réconfort et tout pipou de Adachi, c'est que tu sens qu'il a pas mal de tendresse pour ses persos.
Oui.
Moi, je le trouve vachement bienveillant comme auteur. Alors, il y a des personnages plus aimables que d'autres, mais globalement, tu sens qu'il les apprécie toujours un peu. Enfin, ils ont toujours, il y en a beaucoup qui ont un bon fond, enfin, ou qui sont pas vraiment méchants.
Ouais.
Et après, les personnages qui sont bons le sont vraiment. Mais ils ont plein de, ils ont plein de petites histoires. Ils ont souvent des secrets. Ça, c'est aussi le gros.
Mais aussi, c'est parce qu'il permet lui-même à ses personnages de se venger de lui.
Oui, en
c'est-à-dire
plus.
Que on va vraiment avoir de temps en temps des cases où juste t'as le personnage qui va insulter l'auteur.
Oui, ça lui arrive.
Oui. Donc. Je pense que il instaure une espèce de complicité qui marche vraiment bien.
Ouais.
Et ça fait partie Justement, vu qu'on voit que l'auteur il s'acharne pour mettre le personnage dans des situations complètement pas naturelles, mais pour le besoin de l'histoire, et le personnage le sait et il le subit, mais il sait que en fait tu sens que le personnage il le subit parce qu'il sait qu'à la fin il va arriver à une période de sa vie où il sera heureux et où il aura ce dont il a besoin.
Ouais.
Et ça fait que ça participe aussi à la création du personnage.
Ouais.
Et c'est hyper original.
Mm-hmm. Bah oui. Puis c'est toujours du coup fait dans cette formule d'efficacité, d'agréable, de choses qui. En fait, tout est très naturel, même dans les interactions des persos. Il y a un truc. Enfin, c'est on se fait presque prendre par la main et on suit le truc peinard quoi. C'est méga agréable. Et du coup, Katsu n'échappe pas à la règle. Katsu est même un très très bel exemple de ça. Donc Katsu, qui était, je crois que la publication française est arrivée à peu près en même temps que la publication japonaise. Parce que Katsu, mine de rien, c'est une de ces séries récentes, entre guillemets, disons récentes pour un mec qui a commencé dans les années 70. Katsu, c'est 2002 de mémoire. Et on l'a eu quasiment en même temps. Et en arrêt de commercialisation en 2009, ça veut bien dire à quel point l'auteur n'a pas su trouver son public. Et là, on l'espère. Depuis l'an dernier déjà, avec le retour de Short Program, de Mix, là maintenant Nobinobi, qui l'intègre à Genki, à sa collection Genki. Alors, on espère que là, ça va lancer du retour d'Adachi, parce que Adachi, on est toujours sur la romance, un contexte lycéen. Mais c'est vraiment tout public Adachi. Et donc Katsu ne fait pas exception. Et de quoi ça parle, Katsu? Parce qu'on a fait un petit pavé sur l'auteur. A raison. D'ailleurs, auteur, effectivement, chose à préciser, parce que toujours pour appuyer le fait que mettez du Adachi, donnez le Adachi s'il vous plaît, c'est que Adachi est toujours en activité. Donc, Adachi continue de sortir des trucs à 70-72 ans. Continue de sortir des machins. Il est toujours aussi bon, le gars.
Et c'est voilà.
Et oui. Mais on a Katsu. Et Katsu, de quoi ça parle? Régalons.
Donc, du coup, on l'a dit, ça va parler de boxe.
Ouais.
Donc, on va suivre deux lycéens qui. Alors, c'est un peu. Je vais le dire assez souvent, je pense, mais le trope qui revient, c'est que on va avoir le garçon qui va se mettre au sport d'abord. Pour des raisons complètement grivoises, mais qui va se motiver petit à petit à se bouger globalement, parce qu'il va se rendre compte que ça lui apporte plein de choses, et que au-delà de passer du temps avec l'autre partie du lead, en fait il s'éclate et il s'épanouit bien dedans. Et donc là, c'est ce qu'on a avec Katsu. Hein. Mais ça va être très compliqué de dire Katsu et Katsu. Mais
parce que justement, ça c'est un des trucs, c'est que Katsu, en fait, Adachi, pareil, c'est un autre truc qu'on retrouve dans les comédies romantiques un peu classiques, et lui qui l'adore, c'est les points communs assez improbables,
l'heureux
hasard.
Ouais.
Et là, l'heureux hasard, en effet, donc qui rapproche les deux persos, c'est que les deux persos principaux s'appellent tous les deux Katsu. Enfin, Katsuki, et pas écrit pareil.
C'est ça.
Et donc, en fait, tous les deux sont déjà rapprochés par une homonymie qui.
Et on va le découvrir, pas que. Mais vu que nous, on peut pas dire, en fait, c'est pas ces mêmes caractères,
oui.
Je vais donc dire Katsuki garçon et Katsuki fille.
Oui.
Et donc, Katsuki garçon veut se rapprocher de Katsuki fille en intégrant la salle de boxe tenue par le père de la fille, donc,
ouais.
Sans savoir qu'elle déteste ça.
Ouais.
Et donc, on va apprendre petit à petit, évidemment, pourquoi, les tenants, les aboutissants, voir qu'en fait, quand lui, ça va vraiment lui plaire et qu'il va juste le faire pour lui, on va se rendre compte que elle, c'est plus de la frustration que de la haine, et c'est pour ça que ça marche et que il se déteste pas.
Non.
Et voilà, donc.
Mais sachant qu'en parallèle, ils créent leur relation. Enfin, leur relation, pendant un moment, avance indépendamment de ça.
Oui.
Parce que lui, est inscrit au club de boxe, mais elle déteste ça, donc il lui cache les secrets et les quiproquos propres au style. et dont Mitsuru Adachi et Rumiko Takahashi d'ailleurs se régalent. Voilà, donc on a les quiproquos, donc les petits secrets, les petites choses enfouies qu'on essaye de cacher mais qui durent pas bien longtemps. Enfin, c'est basiquement les gros, de toute façon, ressorts scénaristiques du manga. Ça et le triangle amoureux qui arrive assez rapidement. Donc,
qui fait que changer.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et oui, avec plusieurs prétendants, mais voilà, enfin c'est basiquement comme ça qu'est construit Katsu.
Et après, ça va être l'ascension de Katsuki garçon, donc ouais. vraiment sur la scène amateur et voilà vers un titre comme d'habitude, parce qu'il faut un titre à la fin. On veut aller au Kurokaen.
Bah c'est ça. Bah, vu que c'est la, de toute façon, vu qu'il y a le parallèle entre le sport et sa relation. Voilà, à la fin, il faut qu'il décroche.
Exactement. Mais voilà, puis après, ça va... En fait, l'intérêt et justement le fait que ça ne s'essouffle pas, c'est que plus on avance et plus on remonte sur des choses enfouies avec le passé des familles. Et à chaque fois, on déterre des terres et des terres et on ajoute des strates de complexité.
Ouais.
Et donc... C'est ça qui est vachement bien dans Katsu, c'est que, en fait, c'est pas juste... Enfin, c'est forcément leur relation qui est importante, mais on voit que le monde il tourne vraiment pas autour d'eux, qu'il y a plein de choses, et même si ils se sont rencontrés et en fait on se rend compte que il y avait un passif avec les familles, c'est globalement Roméo et Juliette, hein,
oui, il y a de ça, hein, mais de la boxe,
oui, de toute façon ils finissent par jouer la scène,
c'est vrai,
mais d'ailleurs c'est ce chapitre. Mais voilà, il y a vraiment toute une profondeur de récit qui est tout le temps là avec Adachi pour le coup, et qui se dévoile vraiment, alors je vais pas dire naturellement parce qu'il tord la réalité pour faire un peu ce qu'il veut, mais on sent vraiment le travail préparatoire avant de faire juste le premier chapitre.
Ouais.
C'est vraiment fou parce que à chaque fois il va mettre des petits indices de toi tu as lu, tu sais ce qui se passe, et il y a plein de setup vraiment intéressants, mais du coup qui donnent envie de relire.
Ouais, mais je pense que c'est aussi pour ça, parce que là du coup ce qu'on parle de Katsu, ayant en tête tous les compliments qu'on a fait avant à Adachi, donc le côté naturel et tout, je pense effectivement qu'on peut pas avoir quelque chose d'aussi fluide et agréable, qui glisse autant si tout n'est pas millimétré, c'est certain. Et ce qui est intéressant aussi dans leur relation, alors qui arrive assez souvent, qui arrive généralement avec Adachi d'ailleurs, qui est un bon point de l'aspect purement comédie romantique et de leur relation, c'est que à la fois nous on les suit parce que on sait qu'ils vont se mettre ensemble, mais à la fois leur relation tient vachement bien indépendamment de ça. Alors, ils ont une complicité qui naît avec évidemment des hauts et des bas au fil de l'histoire, mais en fait qui naît très très naturellement et qui se construit indépendamment de la finalité qu'on sait, quoi.
C'est pas juste le coup de foudre et on va passer les 20 prochains tomes ensemble.
Non.
C'est vraiment petit à petit, ils vont apprendre à se connaître et c'est vraiment très très naturel.
Ouais, c'est
très efficace.
Ouais. Enfin, c'est super chouette à voir, parce qu'en vrai, si c'était juste indépendant, s'il n'y avait pas ce but-là, en fait, si c'était juste quelque chose qui était sur Katsu veut faire de la boxe, et qu'à côté il rencontre une fille avec qui il s'entend bien mais juste ils deviennent potes, c'est quasiment le même manga. Or les triangles amoureux, à la limite ça peut être les amis jaloux, tu vois, mais en vrai c'est quasiment la même histoire et ça perd rien à toute la subtilité qu'il y a dans leurs interactions, qui à la fois peut-être assez grave, des fois assez marrante, toujours léger et agréable. C'est trop bien.
Qui c'est que tout ça? Enfin, c'est dur d'enchaîner.
Ouais.
C'est juste trop bien. Ça, tous les points qui sont soulevés, ils sont maîtrisés. Après, il y a quand même des situations qui ont vieilli, notamment tout ce qui est les quiproquos dans les vestiaires. Ça c'est forcément des trucs
très années 80 et très manga de garçon.
Ça a quand même pris son âge, mais. Ouais. Mais c'est jamais et justement c'est ça qui est intéressant, c'est que les personnages le sanctionnent. En fait, parce que c'est quand même pré-publié pour l'adolescent
qui a envie de lire des romances. Mais donc tu vas avoir une scène avec un soutien-gorge et oh là là. Mais ça se vautre pas dedans quoi. Tu vas pas l'avoir en gros fan service, c'est vraiment les personnages te sortent du truc un peu malsain.
Oui, de toute façon, enfin le Adachi de manière générale, c'est paracolore.
Oui.
Et c'est paracolore.
Pareil pour Kumiko.
Oui, effectivement. C'est que, forcément, la question de la sexualité, elle est abordée, alors gentiment. Hein.
Oui.
Mais
c'est vraiment très
c'est très,
très,
très soft, gentil. Hein, mais forcément, en plus, notamment Katsu est intéressant parce que c'est le Adachi ou au moins qui arrive en France qu'on a lu. Où la fille du couple a le plus grand rôle et est le plus mise en avant. Et là, en plus, elle aime pas la boxe, mais elle est très douée à ça.
Oui.
Elle est, elle est fille de boxeuse, elle boxe très bien.
Voilà, elle en a fait depuis toute petite.
Voilà. Et elle casse des gueules.
Ouais.
Et donc aussi, il y a tout quelque chose d'assez filé, une thématique un peu filée justement sur son corps à elle, sur le corps du boxeur. Donc, la boxe qui est dans l'esprit collectif, un sport de mec viril, ça se bagarre. Voilà, mais en fait, où Adachi, enfin moi sur une série de cases notamment que j'aime énormément, qui est dans le tome 1 ou 2, qui fait une description de la boxe où on voit le corps de Katsu en soutien-gorge, en maillot, je sais plus. Mais genre pareil, alors pas sexualisé, pas en mode racolage.
Mais je crois que c'est l'équipement de ring en fait, c'est vraiment le débardeur.
Je crois que c'est un soutif, mais on la voit, mais elle porte un pantalon, c'est un truc comme ça. Et qui est assez intéressant parce qu'il y a tout cet aspect-là de. Évidemment, il y a plein de réflexions de personnages masculins, sexistes, de ah là là, c'est une fille, fait la boxe, et après ils se font casser la gueule.
Oui, c'est ça.
Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, comme situation, ça arrive hyper souvent, et il y a le côté ironie dramatique, c'est que on a les gros bras qui arrivent, trop cool, et en fait ils se font détruire, et on attend que ça. Mais il y a notamment cette description de la boxe, de toutes les qualités de la boxe qui sont mises en parallèle avec le corps de Katsu.
Ouais.
Fille, exactement. Et qui est vachement intéressant sur tous les bienfaits, à la fois en te montrant quelque chose de normalement antithétique avec une vision de la boxe un peu arriérée, quoi, c'est un sport de mec, mais à la fois là on a ce corps de fille de 15 ans, en plus normal, pas exagéré du tout, pas avec des proportions débiles. Ouais. Et qui est hyper intéressant. Il y a tout ce truc là aussi sur l'identité de genre.
C'est justement la grosse frustration de Katsuki, c'est que elle, la boxe, c'était pouvoir rivaliser avec les garçons, et elle se rend compte qu'elle arrive au moment où c'est de plus en plus dur.
Ouais.
Et justement, c'est tout le travail du personnage, de se détacher de ça, de vivre avec son corps, quoi.
À fond. Et en plus de ça aussi, c'est par son talent aussi, elle est une source de frustration plus ou moins pour son père, parce qu'à la fois elle est très douée et son père est content de ça. Après elle a une relation particulière avec lui, mais à la fois aussi son père cherche un peu cette figure de fils qui pourrait entraîner, qui pourrait faire champion, et qu'il peut pas avoir avec sa fille,
tout en étant vachement là pour elle. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que il est quand même vraiment, il fait ce qu'il peut en sachant que elle a du mal à être avec lui parce qu'il a beaucoup d'attentes. Mais il est quand même vraiment présent, il sait ce dont elle a besoin et ce qu'elle attend, et justement il est pas juste là pour dire j'aurais préféré avoir un garçon. Il est vraiment complexe et ça fait plaisir.
Mais ça c'est aussi l'avantage de Adachi,
d'être écrit par Mitsuo Adachi,
c'est ça.
C'est qu'on est un personnage complexe.
Et pareil, ça nous étale pas. Il y a pas des gros pavés dans tous les sens. Parce que son père, le père de Katsu, fille, est intéressant en plus parce que c'est un ex-champion qui a été réputé pour sa violence. Enfin, c'était un gros cogneur et tout. Et en plus, qui est tombé dans l'alcool, qui a tout perdu. D'ailleurs, qui est ça aussi, c'est une des sources d'éloignement avec sa fille. Mais en fait, même des personnages comme ça qui pourraient très facilement être dépeints de manière hyper négative et de toute façon à raison, vu son passé.
Ça.
En fait, Adachi, il aime ses personnages et donc tous les personnages vont se font bienveillants. Et c'est trop cool.
Même les pires bullies du lycée, sais qu'à un moment ils vont avoir leur moment mignon.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il sait pas écrire des méchants en fait.
Non, il sait pas écrire des vraies saloperies.
Il y arrive pas, je pense.
Non. Et c'est touchant du coup. Ouais. Effectivement, la relation avec le père. Enfin, de toute façon, même si effectivement l'amour entre les Katsu et le fil conducteur, en fait, c'est plein de relations qui se créent par elle, qui se développent et qui se mélangent, hein, et tout, et qui avancent et qui sont toujours adorables et toujours avec ce prisme aussi de la boxe au milieu. Et je pense que ils t'ont parlé du dessin.
Mais vas-y, t'es parti.
Adachi, donc on a parlé un peu en intro de lui, est un monstre. Mais pas un monstre façon comme on peut avoir sur des Yusuke Murata, ouais, donc One Punch Man ou Kentaro Miura sur Berserk avec du style hyper détaillé, des
détails
partout.
C'est pas la technique ultra précise et détaillée. Ça va pas être la démonstration de force.
C'est ça, en fait, c'est pas du dessin où il y a énormément de détails et tout. Par contre, c'est un monstre dans l'utilisation de la bande dessinée comme média.
C'est Toriyama.
C'est voilà, un peu, effectivement, c'est un peu Toriyama. Alors bon, même si Toriyama il a ses petits moments de
gros flex,
mais il y a cette idée là, c'est que en fait c'est quelqu'un qui en plus tout simplement en vrai s'il n'y avait pas ses énormes skills au dessin, ce serait quand même déjà extrêmement recommandable. Sauf que là en fait il vient mettre des tartes et d'une manière très très à lui, très très propre à lui-même. Et c'est d'ailleurs, je pense aussi peut-être ce qui le rend intéressant, enfin ce qui lui permet. Je vais plutôt reformuler. En fait, c'est peut-être aussi pour ça qu'il crée cette espèce de cadre hyper répétitif et tout, parce que ça lui permet en fait de péter ses propres codes à lui-même et de créer des espèces d'extravagance de dessin. Notamment, Adachi a peut-être deux grandes marottes. C'est le jeu avec le temps, notamment. Donc, vous le savez, bande dessinée art séquentiel, le temps est décidé à la fois par les indications que donne le dessinateur. Par exemple, on sait tous combien de temps ça prend d'ouvrir une porte. Maintenant, le fait de passer d'une case où on ouvre une porte à la case d'après, c'est nous qui le décidons. Voilà, plus ou moins, on se représente une image. Maintenant, si on prend 3 heures sur la case de la porte, la temporalité est étendue. Adachi, lui, s'éclate avec ça. Notamment, une de ses spécialités, c'est qu'on est sur un auteur qui adore créer du contexte par des pages, des planches entières d'ambiance.
Où il n'y a pas de texte,
où on n'a que des petits plans sur les décors, avec généralement une narration, un narrateur extérieur. Mm. Voilà, en fait, pour juste nous poser un setup, et en général, il le fait avant chaque présentation, déjà en chaque début d'histoire, pour nous mettre, en fait, genre, Adachi, il a besoin de nous montrer l'environnement, l'endroit, l'ambiance, avant de nous montrer son histoire qu'on a déjà lue.
Et après, il va déformer cette page-là au fil de l'histoire.
Voilà, et ça, il l'aime, et ça, il le reproduit.
Et ça, c'est très satisfaisant en tant que lecteur.
Bah ouais.
Parce que c'est vraiment la gratification de l'attention que tu prêtes.
Mais oui.
C'est, je me rappelle de cette page, et elle n'était pas comme ça.
Mais oui.
Et c'est un sentiment vraiment. Tu te le dis pas consciemment, c'est ultra viscéral, c'est vraiment, c'était ça. Et c'est tout. Et juste en tant que lecteur, c'est hyper agréable.
Bah ouais, mais de toute façon, il responsabilise vachement son lecteur sans le lui dire. Bah parce que ces cases-là, en vrai, c'est des trucs qu'on peut juste ne pas y prêter attention, à sauter les pages et tout. Mais déjà, elles sont bien dessinées, elles sont très belles. Et en plus de ça, c'est des pages où le lecteur est responsabilisé parce qu'en fait, on n'a pas de vraie temporalité. C'est-à-dire, on peut commencer par la dernière case, celle du milieu. En général, c'est par 3. D'ailleurs, qu'il les fait, ces trucs-là. Il a vraiment un rythme de 3 cases. Il aime bien ça. Et donc en fait il éclate la linéarité du temps, et en fait on peut juste se balader sur ces cases, il n'y a pas de truc. Et là où ça m'amène à un truc particulièrement intéressant, c'est que là on est sur posé du décor, mais Adachi utilise ça dans ses scènes d'action. C'est-à-dire que là on est sur des combats de boxe, donc c'est ça les scènes d'action, c'est les combats de boxe. Adachi utilise ça, c'est-à-dire qu'il nous montre des moments de combat, donc d'échange de coups, qui en général en bande dessinée et en manga la plupart du temps sont représentés de manière assez à ce que la lisibilité du combat soit au centre de ce qu'on voit. En général c'est une case par coup la plupart du temps, après on en a plein qui ont fait plein de choses différentes, mais notamment par exemple sur Ashita no Joe dont on a parlé il y a quelques émissions d'ailleurs, dont Katsu est un peu l'héritier avec Rose de Versailles. On est sur un espèce
vraiment c'est le mélange,
on est sur la vraie fusion métamol à fond quoi. Et en fait en général c'est la lisibilité, on doit comprendre le combat, on doit comprendre ce qui arrive, qui c'est qui a tapé qui, etc., comme quand on regarde la télé, etc. Sauf que là non, là on est sur vraiment un ressenti pur, parce qu'on a plein de cases de combat où ça s'échange des coups, ça montre ce qui se passe sur plein de plans différents. Mais en vrai on pourrait lire la case dans n'importe quel sens, et ça nous donne un sentiment hyper particulier, et c'est assez fou. Et sachant qu'il combine ça avec son autre particularité qui le rend incroyable, c'est que déjà il adore varier les... Alors ça c'est petit truc un peu à côté, ça plein de gens le font, mais lui il nous couple ça avec tout le reste, c'est que il adore varier les plans, genre les tailles de cases, les gros plans, plans extérieurs, enfin l'œil de l'auteur se balade. Mais en plus de ça, son gros point fort c'est la suggestion. Adachi dans ses combats, ou là je sais pas, dans ses matchs du monde, mais là dans ses combats en l'occurrence, aime suggérer les choses. On a très souvent, et là pareil, ça nous rend ça nous rend actif en tant que lecteur.
Ouais, c'est vrai, on est vraiment acteur de, bah,
on est
de
obligé,
lecture,
ouais. On est obligé, dans tous les cas en bande dessinée on est obligé de l'être, oui, mais là particulièrement parce qu'on
peut vraiment pas être passif du tout,
parce que souvent il nous... une des choses qu'on attend typiquement dans un combat, c'est le setup. Donc on charge un coup, on attend l'impact, genre la démesure, la surenchère, on attend de s'en prendre plein la gueule graphiquement. Voilà, genre on a tous en tête des moments de combat où des personnages sortent leur giga attaque, leur méga coup, ça, mais il y a du sang partout, une mise en scène pas possible, l'impact est fou. Voilà, sauf qu'en fait Adachi nous prive généralement de ce moment-là. En fait, il nous montre pas l'impact, il nous montre la conséquence de l'impact généralement.
Des fois même plusieurs heures plus tard.
Ouais. Ouais ouais, mais même quand ça se passe là, et en plus de ça quand on a tout ça brouillé avec ses, bah, tout simplement en fait sa manière d'éclater le temps, on est sur des choses qui sont qui donnent vraiment beaucoup d'impact. Parce que souvent aussi on est sur quelqu'un qui utilise pas énormément les lignes de vitesse, la déformation pour donner plus de puissance visuelle. En fait lui préfère justement créer presque, enfin peindre ça comme quelque chose d'immobile, donc comme des espèces de photos. Donc on a une espèce de photo et qu'en plus de ça on voit même pas le coup qui a été pris, déjà on est forcé de l'imaginer, et après il nous montre la suite, et quand on voit la personne à terre ou qui a mangé sec, le visage déformé, on capte. Mais en plus de ça, le fait de l'immobiliser, ça rend la chose hyper grave. En fait, le temps s'arrête genre sur l'après-impact, sur
et
les conséquences.
On est obligé de voir la suite pour voir justement à quel point l'impact était dévastateur.
Mais
ou
ouais,
pas du tout.
Mais c'est ça. Et donc en fait, on a cette chose lourde. En fait, ça agit presque comme un espèce de ralenti, quoi. Genre un ralenti dans un film où quelqu'un se prend une mandale, où on appuie bien là, où le son vient bien long. En fait, ça fait cet effet-là, mais avec un dessin qui n'appuie pas sur le côté grandiloquent, dégâts. Enfin, on garde ce côté cartoon, mais voilà. Enfin, c'est impressionnant, et vu qu'il en plus il varie vachement la forme de ses cases, il aime beaucoup les cases en oblique, ouais, les cases triangulaires, donc pour en caser plein, donc il donne beaucoup plus de mouvement en fait, qui rend pareil la lecture encore plus fluide. Donc notre œil s'accélère, il se perd dans la linéarité, c'est à nous de plus ou moins faire cet ordre parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, c'est à nous de créer un peu notre chemin là-dessus. Et en plus de ça, on nous prive du moment le plus important, enfin du climax. C'est juste génial, parce que ça peut paraître frustrant ou genre nul, ou en plus, vu qu'on est sur une émission radio et pas vidéo, vous n'avez pas les planches.
Non,
mais
faut acheter le livre.
Oui, lisez, calmez-vous. En fait, ça, c'est hyper fou, et ça donne, mine de rien, en fait, en nous privant des moments les plus importants comme ça, et en suggérant beaucoup, et en plus en atténuant l'impression de mouvement, finalement, il crée quand même quelque chose d'hyper dynamique. C'est
en fait
ultra dynamique.
C'est juste que lui, son point important dans le récit, ça va pas être l'impact.
Non.
C'est les conséquences. Du coup, il passe directement aux conséquences.
Ouais.
Et c'est juste un exercice de lecture qui vient naturellement quand tu le lis, parce que de toute façon, t'es porté par son style.
Ouais.
Et donc, c'est différent de ce à quoi on a l'habitude quand on regarde Luffy mettre une droite à un Shichibukai, par exemple. Mais c'est pas frustrant parce que t'es dedans.
Mais oui.
Et du coup ça fonctionne.
Ouais, et qu'en plus c'est naturel. C'est-à-dire là, tout ce qu'on décortique, c'est pas quelque chose qu'on se prend pas la tête du tout en le lisant. En fait, on le fait naturellement. Et c'est fou parce que genre on est dedans, on réagit, on ressent comme si on avait des pleines pages de coups abusés.
Il y en a quand même.
Et tout, il y en
a. Parce que justement, moi je trouve vraiment criminel d'écrire des romances avec des scènes d'action comme ça.
Ouais.
Je veux juste voir une fois un manga d'action.
Ah oui, juste
où,
ça.
Où il met que des combats. Parce qu'il y a vraiment des scènes de combat où t'es sur le cul. Juste parce que c'est des démonstrations techniques.
Ouais.
Et à côté, on a des personnages trop bien écrits, des relations complexes et.
C'est ça. Mais c'est archi complet.
Oui.
Adachi, et tout en étant hyper personnel. Oui. En fait, c'est ça son immense force, c'est qu'il est ultra accessible. En jouant sur des codes ultra vus et revus, bon alors même s'il a ses petites touches et ses petits gimmicks, mais par contre, visuellement, il a bien ses trucs à lui, et c'est incroyable, enfin, on est porté, en fait, genre, l'impression de fluidité, de naturel qu'on a en lisant, des phases, enfin les phases normales, il est totalement condensé et accéléré, il est amplifié sur ces scènes-là. Et c'est démentiel à lire. C'est tellement jouissif. Parce que, mais en plus de ça, parce qu'en fait, toutes les émotions qu'on ressent, alors il nous balise le chemin pour le faire, mais à sa manière et de manière très originale. Et en vrai, je pense que ça doit être hyper dur, et ça doit être hyper dur à faire en plus, ouais. À bien faire, ah oui, oui. Ça, parce que quasiment personne le fait. Comme
après,
lui.
C'est une gymnastique intellectuelle aussi. Enfin, oui. Tout le monde peut pas le faire.
Non.
Ou alors, t'as...
non. Lui, c'est son style.
Ouais.
C'est ça. C'est son style, mais en plus de ça, au final, le gros des émotions qu'on a et tout, bah, vu qu'il le suggère et qu'il nous facilite pas mine rien la tâche pour vraiment le ressentir facilement. En fait, tout le travail, c'est nous. Enfin, c'est notre travail de lecteur qu'il faisons, mais sans y penser. Et en fait, on prend des mandales absolues à la place des persos. On grimace. On dit, ouf, dur. Il a pris cher sa mère. Mais en fait, genre, mais il nous le montre pas la plupart du temps. Et par contre, quand il nous le montre, parce qu'il y a quand même des moments où, voilà, où on les voit les mandales.
Et là, vraiment, et là, on les prend, quoi. On se dit, mais juste fais un manga de boxe.
Et en fait, il pourrait tout simplement à chaque fois nous les montrer et l'impact serait quand même fou. Mais en fait, il s'éclate à ça.
Ouais.
Et ce qui est très drôle, c'est qu'il a aussi vachement ça. Alors là, on parle effectivement en manga de boxe. Après, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout. Mais par contre, chaque sport, il ne le montre pas pareil. C'est-à-dire qu'il utilise toujours ces artifices-là. Mais il les adapte à chaque fois au sport dont, enfin, qu'il traite. Mmh. Et c'est, enfin voilà, genre Adachi, c'est complet de ouf. C'est ça le résumé. C'est complet de ouf et archi accessible. Donc voilà, qu'on n'entende plus jamais. Bon, après, on n'a pas un impact démentiel.
Si.
Pour l'instant. On va conquérir le manga game.
Exactement. Mais...
non, mais genre en vrai, si, voilà, il faut arrêter. Enfin, acheter Adachi.
Ouais.
Faites en sorte qu'il
puisse acheter Touch.
Mais voilà, qu'on puisse avoir
Théo,
Touch.
La batte de la victoire.
Voilà, ça c'est effectivement voilà, le vrai plus de Touch, c'est que Touch est arrivé en France assez vite, avec un animé oui. Cool, avec un générique cool, enfin des openings et tout cool, mais qu'on a eu, bah, comme je veux dire, plein de séries qu'on a eu traduites en France sous le nom de Théo ou la batte de la victoire, donc incroyable. Donc, à mi-chemin entre romance lycéenne et film érotique. Entre bon gros porno, mais bon. Non, c'est sage, Adachi.
Oui, toujours. Il totalement... y a vraiment deux bisous par série. Et puis
oui, mais c'est les petits bisous gentils.
Il y a vraiment.
Parce que aussi, l'important, c'est la relation. Enfin, Adachi, oui. En plus, crée vraiment ses récits pour en disant, enfin, en adaptant l'espèce de ritournelle classique de c'est l'important, c'est pas l'arrivée, c'est le voyage. En vrai, c'est ça, quoi.
Ah ben là, clairement.
Parce que surtout, en plus, bon, les fins d'Adachi sont généralement pas à la hauteur.
Bah surtout de ce qu'on a pu lire. Il a tendance à rallonger un peu.
Ouais.
Donc forcément sur la fin on l'attend.
Ouais. En fait on est habitué. Enfin il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être un confort qui s'installe,
c'est
un peu
ça.
Trop.
Moi en ayant du coup relu Katsu là il y a pas longtemps, et en étant quand même bah du coup depuis quand même lecteur d'Adachi, moi je l'ai trouvé plus en longueur, mais je pense que c'est vraiment. Justement avec l'habitude.
Ouais. Bah oui. Bah après aussi.
Sur les premières lectures, j'avais pas du tout ce sentiment-là.
Non, bah parce que les premières lectures, on bave.
C'est ça.
On est là genre. C'est dingue. Je veux voir ça partout.
Oui. Partout.
D'ailleurs, bah après, de toute façon, c'est encore une fois. Mais c'est là où c'est rigolo parce que c'est une rivalité, mais qui est teintée de beaucoup d'amitié et beaucoup d'amour entre les deux. C'est un peu le même problème chez Rumiko Takahashi.
Ouais.
C'est que ces histoires sont trop longues. Bah après, c'est deux auteurs hyper prolifiques qui travaillaient souvent sur deux séries en même temps. Qui bah, sont sur du sériel avec des comédies romantiques. Alors toujours bah, Takahashi, il y a moins le côté sport, hein, mais il y a plus le côté absurde. On l'a aussi.
Sur Ranma.
On l'a aussi. On est sur les arts martiaux.
Ouais.
Dans bah, dans Maison Ikkoku, je sais plus ce qu'ils font. Il y a du badminton dedans, il me semble, un truc comme ça. Et bon, c'est quand même moins en
oui.
Avant. Il y a plus un côté fantastique chez elle. Mais c'est aussi leur problème, mais c'est marrant en fait à quel point ils sont liés tous les deux.
C'est, ouais.
Et après ils ont chacun leur gros socle commun, parce que la plupart des choses qu'on a dit de Adachi, à part le gros point dessin, on peut copier-coller ça et le mettre chez Takahashi. Hein.
Mais on fera une autre émission sur Takahashi, oui. on changera juste les noms, on incrustera
avec des voice-overs. Avec des voice-overs, ouais. Et non, mais effectivement, ils ont tous les deux ce problème de bah, séries qui s'étendent forcément parce qu'on est sur des recettes, même à l'intérieur des mangas qui sont assez répétitifs, ouais. Et qui utilisent un peu les mêmes artifices.
Mais qui fonctionnent.
Et ouais, bah, par contre, qui fonctionnent à fond.
Et ça s'essouffle vraiment très peu.
Et oui.
Il faut vraiment en avoir bouffé pour, pour se dire bon là quand même
bah ouais,
mais il faut vraiment être allé au bout du bout quoi. Ouais. Sinon pour manger matin midi et soir
tout à fait et
aucun souci.
Attention, c'est pas pour rien qu'ils font partie quand même des plus gros noms alors au Japon pour les deux, mais Takahashi quand même est très reconnu chez nous, mais des plus gros noms du shonen des années 80. Parce qu'on est, même si on parle beaucoup de comédie romantique et tout, qui sont un genre absolument pas représenté.
Et oui, justement, ça, c'est, on le dit comme si c'était basique, mais ouais. C'est quand même des séries qui sont prépubliées dans des magazines pour garçons et qui parlent de romance.
Dans les années 80.
Dans les années 80. Enfin, ça n'existait pas.
Non. Non, non. Et non. Et enfin, en fait, vraiment d'avoir intégré, et surtout, en fait, je veux dire, sans dénaturer le côté sexué qu'ils voulaient garder à ce moment-là.
Ça existe toujours pas. Hein,
mais... Ouais, non, ça existe. Bah, en fait, ça existe toujours pas, mais par contre, moi, je suis persuadé. Alors, je veux dire, j'ai pas d'exemple, j'ai pas d'interview qui le précise, mais je suis persuadé que. En fait, le fait que le shonen, Neketsu notamment, en fait, le shonen populaire, mainstream, se soit ouvert de plus en plus, en fait, à. Je veux dire, à l'intériorité des personnages, leurs problématiques internes autres que bagarre ou moi être plus fort dans truc.
Mais ça vient clairement de ça.
Ouais. Disons, enfin, l'énorme ouverture est arrivée avec Naruto.
Avec Naruto.
Mais en vrai, enfin, c'est pour ça que genre, ça me surprendrait pas que genre Kishimoto, il ait poncé ça.
Il
ait poncé ces trucs-là, même si en vrai entre Ranma, Katsu et Naruto.
Il a pas pris des cours d'écriture de romance, mais
non.
Au moins l'écriture de personnages.
Ouais, mais en vrai, ça me choquerait pas parce que même
ça serait complètement cohérent
parce que même par rapport à tous les gros noms du shonen de ces années-là en fait ils dénotent vachement plus qu'actuellement par exemple alors qu'ils tous les deux sont parce que je crois que Takahashi est encore en activité avec Mao je crois qu'elle est encore dessus et en fait ils dénotaient vachement plus dans les 80 enfin il faut représenter que genre ça publiait à côté de Akira Toriyama de Buronson Tetsuhara Araki enfin voilà on a en fait basiquement on avait nos petits lycéens gringalets qui font de la boxe à côté de Hokuto no Ken
c'est vraiment quoi. Tu passais d'une page à l'autre, t'avais Katsu qui faisait des blagues et à côté t'avais Ken
ouais c'est ça. Encore Katsu est sorti en 2002 donc il y avait déjà ça, mais par exemple genre Touch, notre bon vieux Tachan, il était publié à peu près enfin il a été en cours de publication à côté de Hokuto no Ken. Ranma 1/2, je crois que c'est 87 ou 89, hein, c'est fin des années 80, a été publié quasiment en même temps que le troisième arc de Jojo. Genre il y avait Jotaro, voilà. Mettez-vous ça quoi, genre. Et d'ailleurs, par exemple, à Araki aussi, moi je suis persuadé que le fait que pareil, ces personnages deviennent de plus en plus sensibles aussi, qu'on ait plus d'importance accordée à la sensibilité des persos, c'est pareil, ça me surprendrait pas que l'influence soit là. En fait, ils sont arrivés, ils ont été pionniers, ils ont casser cette porte de la sensibilité qui était quand même très très mise à l'écart parce qu'on était sur un truc un peu héroïque et sur des vertus plus un peu un côté universel quoi genre on est plus sur de la vertu masculine de on va sauver des trucs une espèce de
on va sauver des trucs
des gens il y a des choses là en fait on est plus sur la vertu que du sentiment et du relationnel et des choses que Naruto pour le coup totalement pété mais je pense que déjà ça on fait partie des prémices ça. Là on fait partie des je pense des auteurs qui ont vraiment eu cet impact là glissant et puis de toute façon vu qu'ils ont continué et qu'ils écrivaient dans tous les sens voilà donc merci à eux et très heureux de vous revoir chez nous
et merci à vous auditeurs d'acheter tout ce qui va sortir
oui s'il vous plaît faites plaisir voilà et il est temps de conclure avec Katsu achetez-le voilà et on va passer au deuxième interview musical avant le avez-vous déjà lu
voilà donc moi en troisième donc j'écoutais les Fall Out Boys et donc aujourd'hui on aura Thanks for the Memories. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right. But it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. Thanks for the memories. Thanks for the memories. See? Et de retour pour le petit point, avez-vous déjà lu après, après notre gros éloge d'Adachi, hein. C'est dur de trouver des choses à redire. Mais voilà, donc, avez-vous déjà lu Golden Ship? Je me mélange. Mais voilà, très très courte série, hein, 3 tomes, de Kaori Ozaki chez Delcourt Tonkam. Alors, Golden Ship, c'est, on reste dans la sphère lycéenne, mais plus sur la reconstruction de personnages et de relations. Donc c'est vraiment 4 ados qui étaient très amis quand ils étaient petits, qui se sont perdus de vue, en tout cas, il y en a une qui a vraiment quitté leur ville et qui est revenue, et donc ça va créer justement une remise en cause de ce groupe qui a éclaté et qui aimerait se ressouder. Et donc voilà, reconstruction de... en fait, c'est une espèce de thérapie de groupe. Et voilà, c'est tout doux. Il y a un peu de boxe dedans.
On est un peu sur 4.
Il y a la douceur, il y a la boxe. Un petit peu de boxe.
Violent.
C'est vraiment ouais, de la reconstruction de personnes et de relations. Très très cool.
Ouais. Voilà. On est bon.
Bah ouais.
Bah, lisez ça, les potes aussi.
C'est tout court en plus. Vraiment.
Effectivement, 3 tomes.
Ouais. Ouais. Il n'y a pas besoin de plus. Ça se clôture bien. Voilà.
Ouais, puis le dernier sorti il y a 2 ans, je crois.
Ouais.
Ça se trouve encore.
Oui, ça se trouve. Enfin, je l'ai vu partout.
Ouais. Bah voilà.
Voilà. On est bon. C'était Kachou. Kachou.
C'était Kachou
et Boken Shonen, tant qu'à faire.
Oui.
Parce que voilà.
On en a pas parlé, mais enfin, lisez aussi. Enfin, on s'attardait sur Kachou.
Voilà, parce qu'il y a quand même plus de matière.
Oui,
mais Boken Shonen, c'est intéressant parce qu'on se sort, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se sort des grands clichés à Adachi.
Ouais.
C'est plus les mêmes mises en scène. Donc voilà, ça change et ça reste de la très bonne qualité.
Exactement. Donc le fin mot de cette émission, c'est lisez Adachi. Maintenant qu'on l'a.
La grande promo.
Maintenant qu'il revient. Bon, il revient plus l'an dernier, mais là.
Là, c'est Katsu.
Là, c'est cool. Voilà, donc on espère qu'on va en avoir plein. Et on se retrouve dans un mois, deuxième mercredi du mois, pour. Là, depuis le début, on était quand même sur des choses un peu confidentielles, enfin, sur des choses un peu plus cool. Là, avril signe le retour en librairie d'un énorme chose. Bon, quelque chose qu'on a moins attendu, hein. Enfin, en termes de durée par rapport à Katsu, mais en termes de hype, pas du tout. Enfin, bien beaucoup, beaucoup d'attentes également. C'est le retour de Chainsaw Man. Donc, avec le tome 12, donc la partie 2, donc il est temps qu'on cause.
On vient sur du plus récent.
Ouais.
Voilà. On arrête de parler des vieux mangas.
Voilà, on arrête de faire les vieux.
C'est pas parce qu'ils sont mieux qu'il faut pas parler des autres.
C'est ça.
Donc, on va parler de Chainsaw Man.
Chainsaw Man, on a déjà dit oui, qu'on pense.
On a déjà largement parlé de Fujimoto.
Voilà.
Mais
là, en fait, Chainsaw Man mérite. Et puis, c'est l'occasion.
Oui.
Parce que. À part là, quand ça sera vraiment terminé, il n'y aura pas d'autres vraies occasions d'en parler comme ça.
Voilà, on profite.
Donc, on se retrouve dans un mois pour parler de Chainsaw Man. Hein. Voilà, pour vous dire à quel point. Bon, l'idée, ce sera pas de vous dire de l'acheter parce que vous l'avez probablement.
Oui,
vous l'avez déjà regardé.
Voilà, on va juste. On va globalement faire comme avec Adachi, on va dire c'est trop bien.
Voilà, exactement. Mais venez, néanmoins. Venez nous écouter, suivez-nous sur Instagram. On a une petite page. Hyper active, mais on est hal.
Ouais, je vais essayer de mettre des photos, j'y arrive pas, mais je suis désolé.
Venez donner le clout. Et toi, viens mettre les photos.
Oui, désolé, pardon. J'y arrive pas.
Et on se retrouve. Donc,
dans un mois.
C'est les bisous. Matané.
Matané.